Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Et je vous souhaite à tous, chères lectrices et chers lecteurs, une bonne année 2024, avec du rêve, de la poésie, de la beauté, même si la violence nous étrangle ici ou là, et de belles promesses, de bonnes lectures afin de garder le cap toute une année. Avec des nouveautés qui vont vous mener à temps et à contre-temps dans des lieux parfois étranges jusqu'à Nicolas de Staël en passant par L'art et son miroir. Alors voici le premier roman, La jeune fille et le feu, de Claire Raphaël, édité par Rouergue Noir, le Rouergue Noir. Claire Raphaël, que je retrouve avec grand plaisir, ayant adoré son roman précédent, S'il n'était pas si fou, voilà, qui était vraiment une très très belle expédition à ses côtés. Dans ce nouveau roman, La jeune fille et le feu, il y a Astrid. Astrid, une lycéenne qui vit seule avec sa mère, Émilie. Alors qu'un frère et une sœur, plus jeunes, ont été placés en famille d'accueil. Et lorsque Émilie meurt brûlée vive dans son appartement, le substitut décide de confier l'enquête à l'équipe d'un commissariat local plutôt qu'à la brigade criminelle. C'est ainsi que Jasmine et son chef Tom héritent d'une affaire complexe. La mort de cette mère alcoolique est-elle accidentelle ? Ou les violences subies par sa fille se sont-elles cristallisées en une haine mortelle ? C'est la question. Et il est question aussi d'un rideau. Voilà. Est-ce qu'il a brûlé ou est-ce qu'il n'a pas brûlé ? Enfin bref. Et dans ce roman policier, sensible, Claire Raphaël livre le passionnant portrait. Je parlais beaucoup de portraits dans cette émission. Le passionnant portrait d'une adolescente Astrid, qui est une adolescente, suivie par les services de police, et que Jasmine semble accusée de manipulation. Manipulatrice ou résiliente, c'est le thème défendu âprement dans ce grand roman incisif de Claire Raphaël à lire absolument. Voilà. Pour le premier roman, La jeune fille et le feu de Claire Raphaël, édité au Rouergue Noir. Et je passe au deuxième roman. Le deuxième roman, Seuls les fantômes, et de Cyril Fallis, édité par Bellefond. Depuis que son ex l'a largué, parce qu'il était faible, soi-disant faible et fragile, Melville, le héros de cette aventure, souffre et déprime, avec l'impression tenace de promener un chien en deuil. Le trentenaire travaille à Bruxelles dans une agence créative, donc ça se passe à Bruxelles au départ, sur les réseaux sociaux où il a trouvé refuge. Il rencontre Alice, comme Alice au Pays des Merveilles, mais cette Alice, c'est une rencontre virtuelle qui va réveiller ses chers disparus. Alors il y en a plusieurs, au moins trois, mais il y en a d'autres. Il y a Laetitia, voilà, Il y a la galopante qui est le surnom donné à sa mère adorée, qui est morte. Mais voilà, il a fait revivre. Cette rencontre virtuelle va la faire revivre. Et nous aussi, on va la revoir revivre. Il y a Nina aussi. Trois images manquantes, trois premières fois. L'occasion aussi pour Melville de replonger dans sa jeunesse. Un voyage dans le temps, qui dessine son portrait et où tournoient les voix du passé, ainsi que les étés à Saint-Dalmas, Val-de-Blore, sur les hauteurs de Nice, où il a passé vraiment ses étés là-bas avec ses grands-parents, sa famille, les truites de Boréon, avec pêcher avec son grand-père, les émois et les malentendus, l'occasion aussi de réparer peut-être une partie de son passé, puisqu'il va revisiter son passé. Dans une langue qui jaillit comme un torrent, Cyril Fallis explore l'absence, voilà, de ces personnes disparues, l'absence sous toutes ses formes, et signe un premier roman, oui, c'est un premier roman, à la poésie singulière où un homme cherche sa place, où les fantômes parlent et consolent parfois. En tout cas, je peux vous le dire, on les entend bien, ces voix des fantômes. Alors je vous lis un passage pour vous mettre l'eau à la bouche. La rencontre avec Laetitia. En descendant de la Renault 21, j'étais barbouillé. Laetitia se tenait sur les marches, les bras croisés derrière le dos. La première fois qu'on regarde quelqu'un dans les yeux, que peut-on y lire ? Je restais planté là, à la fixer, la main encore collée à la portière. Elle gigotait légèrement, postée devant l'entrée de la résidence, aussi droite que les colonnettes semblables à des cure-dents qui soutenaient la toiture. Elle se décala à peine quand nous passâmes devant elle avec nos valises. Elle sautillait à présent. Je tournais la tête, elle nous suivait. Sa peau était brune, ses yeux immenses, ses cheveux touchaient presque le sol, elle souriait. Il est impossible à cet instant que j'ai perçu l'étendue de sa beauté. Elle m'intimidait, ça oui. Le studio de mes grands-parents était au premier étage. Elle nous suivit dans l'escalier. Au bout du couloir, dernière porte à gauche, l'odeur typique d'un appartement qui n'a pas été aéré depuis longtemps, son petit visage de chat dans l'embrasure de la porte. Quelqu'un cria dans le couloir. Elle partit à toute vitesse. Elle disparut dans le long couloir et grimpa au second. Je m'aventurai derrière elle jusqu'à l'escalier. Les marches s'effacèrent une à une dans le noir. La peur d'être engloutie, dévorée par cet inconnu qui m'attirait à lui. Voilà, je m'arrête là. Né en 1976, Cyril Fallis a grandi à Bruxelles et a longtemps écrit sur le cinéma. Elle est aujourd'hui libraire en Provence. Seuls les fantômes est son premier roman. Libraire en Provence, je crois que c'est du côté de Nice. Voilà. Eh bien, voilà. Pour le second livre, Seuls les fantômes de Cyril Fallis qui vient de paraître chez Bellefond. Et je vous parle d'un troisième livre, qui est un essai. De temps en temps, de Bruno Angle, aux éditions du Cerf. C'est une diffusion Gilles Paris. Et je le remercie car j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec ce livre de temps en temps. Qu'est-ce que le temps ? Quelle est sa nature ? Quels sont ses pouvoirs ? Comment bien l'allouer pour en faire le meilleur usage ? Telles sont les questions que Bruno Angle aborde dans cet essai profond et tonique. Où sont convoquées la science, les arts et la philosophie, mais aussi le sport, le cinéma et surtout la vie quotidienne, en famille, au travail, en société, de cette ressource rare et précieuse. Nous disposons comme bon nous semble, avec plus ou moins de bonheur, jusqu'au jour où il s'arrête. Voilà, et c'est la mort. Nous croyons le tenir dans nos mains et nous finissons par nous remettre dans les siennes. Nous ne cessons de le poursuivre et il ne cesse de nous dérouter. Aussi ce livre est-il l'occasion d'en suspendre un instant le cours et de le contempler, de l'interroger, de l'appréhender dans tous ses états et même de l'apprivoiser sous toutes ses facettes, entre la pérennité des étoiles dans le ciel et la précarité de nos agendas. Cette fresque sans précédent est aussi un guide d'apprentissage. Il y a vraiment beaucoup d'expressions qui sont réunies dans cet essai de temps en temps de Bruno Angle. Une façon aussi de vivre et d'agir, de décider de sa vie et de réagir face au temps qui s'enfuit, dont on n'a pas la maîtrise. En écoutant les poètes, par exemple, c'est une façon de faire, car on sait que les poètes sont avertis de certaines choses. Charles Baudelaire, par exemple, qui pousse un cri de colère avec l'horloge. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. 3600 fois par heure, la seconde, chuchote, souviens-toi, rapide avec sa voix d'insecte. Maintenant dis, je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Oui, le poème, normalement, est plus long, mais je suis Bruno Angle qui a pris les deux strophes. La deuxième réflexion poétique, c'est la mélancolie. Vous allez reconnaître ce poème. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure. Passe les jours et passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Oui, vous avez reconnu Guillaume Apollinaire. Quand sonne l'heure, hein, ben voilà. ou la résignation. La résignation, c'est un poème, une chanson, un poème de Léo Ferré. Avec le temps, vous vous souvenez, avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, ben oui, j'ai un ami qui vient de partir, le cœur s'est arrêté. Le cœur, quand ça bat plus peu, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Peut-être, mais pas pour tout le monde. Donc, dans ce livre, est émaillé de conseils pratiques pour expérimenter le bonheur de notre condition temporelle et pouvoir ainsi jouir, oui, pleinement de ce don merveilleux qu'est la vie. Le confinement de 2020 a complètement bouleversé notre rapport au temps. C'était l'occasion pour Bruno Angle d'écrire, de réfléchir et d'écrire ce livre. Les jours, les semaines et finalement les mois ont suivi un rythme que nous-mêmes avons eu du mal à suivre. Notre usage du temps plongé entre quatre murs, avec l'impatience, l'ennui et la violence parfois, et les morts que l'on ne pouvait accompagner à leur dernière demeure. Oui, ce livre est le recueil de ce que l'auteur a appris sur le temps lors des différentes étapes de sa vie mouvementée en tant qu'être humain, père de famille, citoyen et dirigeant d'entreprise. De temps en temps, Bruno Angle, les multiples visages d'un trésor. Et sous la couverture, on voit une très ancienne pendule. Polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées, Bruno Angle a été à la tête de grandes entreprises dont Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc, Vinci Énergie, Macari France, Crédit Suisse, France et Belgique. Il est aujourd'hui directeur général du groupe AG2R, La Mondiale. De temps en temps est son premier livre que je vous conseille de lire et de méditer. Et je reviens sur un roman, La forme du fleuve, de Gwenaël Abolivier, édité par Le Mot et le Reste, qui est mon coup de cœur de l'année 2023, puisque nous sommes en 2024. Voilà, je reviens sur La forme du fleuve, de Gwenaël Abolivier, une pure merveille, une lecture qui va droit au cœur et à la tête. C'est au bord de la Loire, dans un rêve d'eau douce et de secret, qu'elle va poser les yeux sur le long du si long fleuve qu'est la Loire. Elle va au long dessus du si long fleuve, elle descend dans un rêve d'eau douce si précieuse, elle descend vers l'estuaire dans une décantation d'avant la marche de l'Atlantique, juste avant la bascule vers la haute mer. Là, elle va et plonge aussi dans les eaux claires de l'écriture. Mais cette fois, Gwenaël Abolivier, elle est venue pour raconter et donner voix à la terre. La terre pour ne plus se taire. Elle arrive à Saint-Florent-le-Vieil, dans une Loire plus intime, la porte du pays des Mauges. La Loire et sa vallée sont imprégnées de cette lascivité amoureuse qui aimante. Elle monte par la rue du Grenier à sel, une rue importante, la rue du Grenier à sel, où Louis Poirier, vous connaissez Louis Poirier, alias Julien Gracq, a vécu son enfance à Saint-Florent-le-Vieil et rue du Grenier à sel. Il ne faudrait vivre, dit-on, que les fenêtres ouvertes. Le fleuve apparaît alors en majesté et s'offre en rêve d'éternelle jeunesse. Elle y était passée déjà en 2007, 3 mois après le décès de Julien Gracq, impressionnée par sa haute villa de crépi grisâtre et aux volets fermés, que j'avais vu d'un bateau sur le fleuve accompagné d'un pêcheur. Mais elle est revenue, voilà, en résidence dans cette maison de Julien Gracq. Elle est revenue à vélo. Je filerai en direction d'Ancenis. Mon écriture ne peut se passer de l'expérience du terrain. Mon bureau est dehors. « Sous le toit de l'univers, dit-elle. Quand elle ne marche pas, elle pédale sur le réseau de pistes cyclables qui irrigue la France et l'Europe. » Oui, dans les autres, des romans précédents, elle a fait du vélo aussi. Elle parle de Cholet, de la guerre de Vendée. En Loire, l'atmosphère terrestre change en même temps que le climat. Alors je vais noter d'autres choses. Ce texte, La forme du fleuve, de Gwenaël à Bolivier, n'est pas seulement une description attentionnée de cette Loire. Un fleuve si singulier, mais aussi c'est une aventure à Saint-Florent-le-Vieil. Pour parvenir aux îles de la Loire, en particulier l'île Batailleuse. C'est aussi un livre de rencontres avec Claude M., qui se promenait avec Julien Gracq, qui a eu l'opportunité de l'apprivoiser pendant 15 ans, et qui nous en parle avec émotion et littérature, de même que Gwenaël à Bolivier nous parle des œuvres de Julien Gracq, qui se sont exprimées, qui parlent de cette Loire aimée et qui viennent de là. Donc, je m'arrête là et on va écouter de la musique, une musique très romantique. Le troisième mouvement, il y en a 8, le troisième mouvement, des Grèces Lériana de Robert Schumann, interprété par la divine Hélène Grimaud. N'est-ce pas que c'est beau, c'est magnifique, comme musique de Robert Schumann. Et je vais parler maintenant des artistes que j'avais prévu à la suite de ces romans, de vous parler en particulier, mais on arrivera, de Nicolas de Staël. Mais je parle des artistes et dont j'ai trouvé aussi un poème de Léo Ferré concernant les artistes. Ils sont d'une autre race et ne le savent pas. Ils sont d'un autre clan et se mêlent à vous. Ils vous tendent leurs mains et vous donnent le bras. Ils sont le clair matin dans vos nuits de tempête. Ils sont le soleil noir de vos étés d'hiver, les artistes. Ils peignent le chagrin dans les coquelicots. Ils écrivent l'amour dans vos chambres glacées. Ils font plier le temps. Voilà, on reparle du temps. Ils font plier le temps sous l'aile d'un oiseau. Ils font passer la vie dans vos accords brisés. Ce sont des gens d'ailleurs, les artistes. Alors oui, l'art, je parle de l'art et son miroir de Hubert Haddad, qui est paru chez Zulma Essai. Dans cet ouvrage, qui est une somme de références de 625 pages, à travers le temps et l'espace, depuis les origines de l'art, axé sur la modernité. Ce livre, pour Hubert Haddad, l'art et son miroir sont axés sur la modernité. Et selon Charles Baudelaire, je reparle de Charles Baudelaire, celle-ci, la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Vous voyez, on aborde l'éternel et l'immuable. Il y a une modernité pour chaque peintre ancien. Et c'est ce que l'on découvre en parcourant cet ouvrage, cette somme, l'art et son miroir, parce qu'on parle d'un artiste à un autre, on revient, on tourne autour. Et partout où surgit la nouveauté, on cherche un visage. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu parler de portrait. On cherche un visage. Des yeux sans masque ou s'assurer de la permanence du vivant. Des yeux sans masque. Alors que nous, on devait porter des masques. Ainsi revient-on sans discontinuité au portrait du Fayoum, oui, comme à la naissance du monde. Des visages d'une fraîcheur d'expression bouleversante, toute embuée d'éternité. Vous voyez, on retrouve la parole de Baudelaire. Ces peintures ont la même puissance d'effraction que les fresques de Pompéi. Souvenez-vous aussi des fresques de Pompéi. L'art funéraire artisanal, les portraits du Fayoum participent de cette pratique de la joie devant la mort, invoquée par Georges Bataille, de cette lumière évanouissante révélant l'être infiniment identique en tout visage humain. C'est pour ça que nous sommes touchés par ces portraits et par ces premières expressions de peinture, des fresques. En tout visage humain, toute œuvre authentique est un miroir d'ombre où se cache un visage mortel à notre semblance. C'est pour ça que nous restons vivants d'un visage à l'autre grâce aux artistes, même lorsque nous sommes morts et enterrés. Depuis les fresques de Lascaux ou d'Altamira, peindre est un acte fondateur qui nous interroge encore et toujours, même aujourd'hui, au XXIe siècle. Et quand on pense aux enfants, donc c'est vrai qu'il y a des enfants qui s'adonnent, ben vos enfants, ils s'adonnent chaque fois avec des dessins ou des couleurs. Ils se mettent à la peinture, c'est inné chez eux, ils ont besoin de le faire, et ben ça rejoint ces actes fondateurs depuis les origines, par-delà les générations. Chaque peintre, chaque sculpteur ou plasticien a sa modernité, que ce soit Francis Bacon, Caravage, Courbet, Giotto, Goya, Frida Kahlo, Vifredo Lam, Matisse, Michel-Ange, Édouard Munch, Pollock, Titien, Véronèse, ont tous été acteurs des mouvements de conscience de leur époque. Aujourd'hui encore, ils ne cessent de nous interroger. D'Artemisia à Zurbaran, Hubert Haddad retrace et imagine des constellations qui échappent avec une inventive jubilation à toutes les classifications. C'est pour ça que l'on passe de l'un à l'autre, avec des propos artistiques et d'une érudition étonnante et confirmée. À travers la quête des mutations et des métamorphoses dans l'espace vivant des formes et des couleurs. Hubert Haddad nous propose avec ce livre un regard créatif et fécond sur la vie et l'œuvre de plus de 120 maîtres, 120 maîtres incontournables ou méconnus. Bien au-delà d'une classique histoire de l'art, L'art et son miroir, Zulma Essai, est un inventaire de cette prodigieuse diversité et il nous invite dans son musée intérieur, dans les mille directions de l'imaginaire qui seul peut nous ouvrir à l'infinité sensible du monde. Lui-même, qui est également peintre et critique d'art. Voilà ce que je voulais vous dire sur L'art et son miroir de Hubert Haddad. Un écrivain, Hubert Haddad aussi, mais là, il est critique d'art. Zulma Essai. Et donc, je voulais vous parler aussi d'un homme, d'un artiste incomparable pour moi, que je connais depuis quelque temps. J'ai eu la grâce de voir des expositions. Et il y a aujourd'hui une exposition, La peinture comme un feu, Nicolas de Staël. Je fais le choix de cette exposition magistrale pour reparler de cet artiste incontournable et d'une modernité incroyable. Justement, donc nous sommes toujours dans le thème de la modernité. C'est au Musée d'art moderne de Paris et vous pouvez jusqu'au 21 janvier 2024 aller la voir, cette exposition « La peinture comme un feu ». Il disait, Nicolas de Staël, parce que je vais prendre des expressions qu'il a dit et redit, écrit au musée, « On fonctionne comme on peut ». Dit-il, et moi j'ai besoin pour me renouveler pour me développer, de fonctionner toujours différemment d'une chose à l'autre, sans esthétique a priori. Ce qui importe, c'est que ce soit juste. Et on va donc, en parcourant cette peinture comme un feu, on va des ciels gris et bleus de Saint-Pétersbourg à la perspective azur de la Méditerranée. S'élabore le cheminement d'un artiste solitaire, orgueilleux et compassionnel, c'est vrai, c'est ça qui est formidable chez lui, au parcours aussi lumineux que tragique. Pour en savoir plus sur sa vie et son œuvre, se trouve en livre de poche Nicolas de Stael, Le prince foudroyé de Laurent Cressalmer. Voilà, pouvez-vous. Mais avant ça, je peux vous dire que je vous cite des réflexions qui sont tirées d'un livre Nicolas de Stael au musée Art que je dispose. Et il y a voilà, beaucoup de choses qui sont dites, de citations qui sont dites dans ce superbe livre, avec des peintures magnifiques. Peu à peu, je me suis senti gêné de peindre un objet ressemblant. J'ai cherché alors à atteindre une expression libre. Même si à propos du portrait de Janine, que l'on voit justement dans ce superbe livre, même si à propos du portrait de Janine, sa première épouse est Géry, plus tard, dit-il, quand j'étais jeune, j'ai peint le portrait de Janine. Un portrait, un vrai portrait. Très beau. Donc, vous voyez, on retrouve les portraits du Fayoum. C'est quand même le sommet de l'art, dit-il. C'est lui qui le dit. Il dit aussi des petits cubes, toujours des petits cubes qu'il il nous met en chemise et au vent la pierre fracassée. Ça, c'est, il l'écrit à René Char. Son ami René Char. Entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi, avec toute la présence que cela requiert en toute invraisemblance. Ce sont les joueurs de rugby. Quelle joie, René, quelle joie! Si je trouvais un local grand comme la rue Goguet, je mettrais 200 petits tableaux en route pour que la couleur sonne comme les affiches sur la nationale au départ de Paris, le cyclisme, l'appel du midi. Là, la lumière est tout simplement fulgurante. Ici, bien plus que je ne m'en souvenais, je vous ferai des choses de mer, de plage, en mesurant l'éclat jusqu'au bout si tout va bien. Oui, et l'on peut voir dans ce livre, ou à cette exposition, le premier tableau de cette lumière sous le soleil exactement, qui est... Qu'on vous transmet à la radio. Je ne cherchais rien que la peinture visible par tout le monde. Vous voyez, quand je dis que c'est un auteur aussi qui pense aux autres. Le nu, il a fait des nus aussi. Une vulgarité sublime et ronde d'une prostituée qu'il avait rencontrée, enfin qu'il avait posée pour lui, une vulgarité sublime et ronde comme une pierre tendre, des natures mortes aussi magnifiques, je trouve magnifiques, entre Chardin et Morandi. Chaque peintre fait ce qu'il peut avec ou sans un culte pour l'objet, mais c'est toujours un prétexte, et ce sont des prétextes vraiment merveilleux, ça je peux vous le dire. Je ne peux avancer que d'accident en accident, dès que je me sens une logique trop logique, cela m'énerve et je vais naturellement à l'illogisme. Celle ne pouvait pas dès lors que succomber, ne pouvait dès lors que succomber aux géniales improvisations de Sidney Bechet et de son orchestre. Oui, on le voit, les figures de cet orchestre de Sidney Bechet. Il y a eu, c'est vrai, un moment où on voit Sidney Bechet en photo. On a cassé l'Olympia, 2 millions de dégâts au lendemain du concert donné par Sidney Bechet le 19 octobre 1955. On voit aussi le Café Flore en activité avec Simone de Beauvoir, avec tous les gens de cette époque. La danse aussi, James Dean et Marlon Brando au cinéma. Et le vieux lion, Sidney Bechet, dépasse bien vite le petit cercle restreint de ses fans du vieux Colombier. Je ne suis unique que par ce bon que j'arrive à mettre sur la toile avec plus ou moins de contact, dit-il. Alors c'est vrai que quand il va pouvoir voir aussi, plus vous saisirez que l'exposition, c'est tout chez moi, comme on ouvre une fenêtre, plus vous comprendrez que je ne peux pas l'arrêter en finissant plus les choses, écrit le 17 février 1955. Oui, parce que, eh bien, on arrive. Nicolas de Staël dit encore une vie incandescente. Pour moi, l'instinct est de perfection inconsciente, et mes tableaux vivent d'imperfection consciente. J'ai confiance en moi parce que je n'ai confiance en personne d'autre, dit-il. Et c'est vrai que malheureusement, alors que tout lui souriait, qu'il atteignait le sommet de son art, 2 ans avant son suicide par la fenêtre, il vivait à Antibes. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais si, c'est parce que tout cet art, toute cette peinture, ça l'a submergé, en fait, au Fort Carré d'Antibes. Artiste indépendant, qui fut le premier à dépasser l'antinomie, la contradiction, voilà, entre l'abstraction et la figuration, dans cette effervescence des années 50, il décidait de partir en silence. L'avenir nous dépousse dans le dos, disait-il avant son suicide. L'avenir nous pousse dans le dos, bien en face par l'instant, l'avenir. Oui. Quel pouvait être son avenir outre, puisqu'il avait atteint le sommet de son art. Donc, à vous d'aller voir cette exposition ou de lire donc je vous ai dit la biographie que je vous ai dit d'un écrivain, Nicolas de Staël, le prince foudroyé de Laurent Cressalmer. Sous les ponts de Paris, Requiem pour une cathédrale, il a fait vraiment, oui, on voit bien, il a fait beaucoup de choses. Donc, tout ça, c'est magnifique. Tout azimut, vous voyez ses voyages aussi qu'il a fait, parce que il est allé, il a beaucoup voyagé. Des brumes fantomatiques de Saint-Pétersbourg qu'il quitte en 1919, à l'âge de 4 ans. Un voyage ultime dans les eaux froides de la Méditerranée à Antibes, un certain 16 mars 1955. Nicolas de Staël en aura parcouru des pays et des villes, le Maroc, l'Espagne, la Sicile, voilà, oui, où il a passé de bon temps, New York, Amsterdam, Paris. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec toutes ces impressions-là. Et puisqu'il me reste un petit peu de temps, je vous dirai que le mois prochain, je vous parlerai, j'ai plusieurs livres en tête, de romans historiques. Et parce que Jean-Marie Rouart vient de publier « La maîtresse italienne », Jean-Marie Rouart de l'Académie française, mais aussi qui a fait des livres sur les impressionnistes, sur Napoléon ou la destinée aussi, il aime beaucoup une biographie, une famille dans l'impressionnisme, voilà, parce que il est lié aux artistes. Augustin Rouart, voilà, avec Augustin Rouart, entre père et fils, Augustin Rouart. Donc là, il revient sur une période de Napoléon, la maîtresse italienne. Cette maîtresse italienne est belle, jeune, légère. La comtesse Mignassi est au cœur d'une énigme historique de première grandeur, dit Jean-Marie Rouart. Quel fut son rôle dans l'évasion épique de Napoléon de l'île d'Elbe ? Question. Sans elle, l'empereur n'aurait pu tromper la surveillance de tous ceux qui guettaient le moindre de ses mouvements. Particulièrement, le jeune colonel Ney Campbell, chargé par les Anglais d'empêcher sa fuite. Dans quelle mesure la passion de l'officier britannique pour la belle Florentine a-t-elle permis de déjouer les plans des puissances alliées, engagées au congrès de Vienne dans des négociations aussi âpres le jour qu'agrémentées la nuit de fêtes, de complots et d'intenses échanges amoureux. Cette passion torride entre le colonel et la séduisante comtesse ne fut-elle pas un piège ? Étendu par qui ? Seule certitude, sans la comtesse Mignassi, la formidable épopée des 100 jours, l'invasion d'un pays par un seul homme, n'eût pas été possible. Vous voyez que c'est extraordinaire, hein, que ce livre « La maîtresse italienne » de Jean-Marie Rouard, qui vient de paraître chez Gallimard. Et je vous en parlerai plus en détail le mois prochain, dans cette même émission, sur Radio B, 90 FM. Et en couverture, on voit, peut-être, je ne sais pas si c'est le portrait de cette Rome, de cette comtesse italienne, la comtesse Mignassi, au cœur d'une énigme. En tout cas, on retrouve encore un portrait et de la peinture. Voilà, donc je vous dis à bientôt, encore bonne année aux uns et aux autres, et au mois prochain. Au revoir.